Bienvenidos a este informativo de Radio France.
Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. François Bernard.
Bonsoir, merci de nous rejoindre dans Accent du Monde. Trois invités dans cette émission aujourd'hui. Ninan Wang pour la rédaction chinoise, bonsoir. Matei Vichniak pour la rédaction en langue roumaine, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et puis Sarah Elzas pour la rédaction anglophone, bonsoir Sarah.
Good evening.
Alors en deuxième partie des d'émission, on aura les élections européennes vues par les Chinois de France, un tremblement de terre politique en Roumanie et l'incarcération d'un patron du parti au pouvoir. Et puis la découverte dans un fleuve en Alabama du dernier bateau à avoir amené des esclaves d'Afrique aux États-Unis. Mais tout de suite, on s'intéresse aux élections européennes qui se sont déroulées dimanche dernier. Avec vous, Matei Vichniak de la rédaction en langue roumaine. On observe donc maintenant les résultats des élections dans les pays de l'Europe de l'Est. Avec une première constatation, le groupe de Visegrad se renforce et pourra avoir un mot plus important à dire dans le futur équilibre des forces dans le cadre du Parlement européen, n'est-ce pas?
Oui, le groupe de Visegrad, petit rappel, réunit quatre anciens pays du bloc de l'Est, l'Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la République tchèque. C'est un groupe qui a une vision de l'Europe un peu controversée, parfois un peu anti-immigrationniste. Il a un peu de peur de la démocratie libérale. C'est la doctrine de la démocratie illibérale de Viktor Orban qui les inspire. Mais c'est un groupe qui a été massivement soutenu par l'électorat local. Il faut déjà préciser cela. Le parti à la fois nationaliste et conservateur de l'Hongrois, Viktor Orban par exemple, a obtenu 52% des voix. Un résultat inimaginable dans les pays de l'Europe de l'Est. Pour l'instant, donc, Viktor Orban cherche un compromis avec le Parti Populaire Européen, mais n'exclut pas une alliance avec d'autres formations, surtout avec les populistes, peut-être, on ne sait pas, de Matteo Salvini, l'Italien. Par contre, Viktor Orban refuse pour l'instant tout rapprochement avec Marine Le Pen.
Et presque dans tous les pays d'Europe de l'Est, les partis au pouvoir ont gagné pratiquement ces élections, mais la Roumanie fait exception.
Une exception notable qui est une bonne nouvelle pour l'Europe. Les Roumains ont sanctionné en effet la vision eurosceptique du Parti social-démocrate et la dérive autoritaire de son chef, Liviu Dragnea, très connu en Roumanie. Bon, en 2014, cette formation héritière du Parti communiste avait obtenu 37% des voix et dimanche, 26 mai, chute totale, spectaculaire, seulement 23% des voix. Ce sont les libéraux en opposition qui ont gagné en effet les élections. En parallèle, les Roumains ont voté pour un référendum convoqué par le président et ont dénoncé les réformes judiciaires du gouvernement censées saper la lutte contre la corruption. J'ajoute que les Roumains ont voté massivement en Roumanie et à l'étranger où vivent entre 3 et 4 millions de Roumains.
Et vous avez évoqué aussi, Matei, le désir des peuples européens d'avoir plus, davantage d'influence donc sur Bruxelles.
La participation en hausse des électeurs justifie cette conclusion, ainsi que le grand nombre de jeunes qui ont voté. La catastrophe parfois annoncée de l'abstentionnisme n'a pas eu lieu. La famille pro-européenne reste majoritaire dans le Parlement, même si les anciens partis doivent maintenant composer avec les écologistes et un peu plus avec les libéraux. Je citais un historien, Christophe de Vogt, qui dit dans Le Figaro, le fait fondamental est ainsi l'avènement d'un vrai espace politique européen. C'est la fin de la longue indifférence des peuples à l'égard de l'Union. Les résultats des élections mettent aussi en lumière plusieurs préoccupations majeures en Europe, l'immigration, l'écologie, le social. Ne pas répondre à ces préoccupations serait une grave erreur de la part de l'élite politique.
Matei Vichniak, je me tourne vers vous, Sarah Elzas de la rédaction anglophone de RFI. L'observation des résultats vous amène à cette conclusion, rien de nouveau sous le soleil.
Ouais, en fait, oui, les résultats qui ressemblent aux élections européennes précédentes. Le parti Rassemblement National de Marine Le Pen a en fait gagné moins de pourcentage dans cette élection qu'il y a 5 ans, quand le Front National a eu presque 25% du vote. Donc notre constat, c'est le premier parti, mais c'est un peu comme ce qui s'est passé la dernière fois. Mais bon, le fait que le parti est premier monte bien sûr que c'est une force politique, pas un phénomène de marge, mais le parti reste dans les 20-25% dans toutes les élections. Ça va être difficile de forger les majorités. Pour les Verts, en France, le parti a eu 13%, devançant les partis traditionnels de gauche et à droite. Encore une surprise, mais on rappelle que le parti a gagné 16% en 2009. Ce résultat veut dire que les questions de l'environnement ont du poids, mais politiquement, les Verts en France ont eu des difficultés à traduire ce résultat dans une élection européenne en résultat national.
Les partis verts qui ont connu du succès pratiquement partout en Europe.
Partout en Europe, oui, puisque les partis, ainsi que les partis populistes en fait, et de extrême droite, mais pas partout. Donc on a vu les Verts allemands faire un très bon score, très peu de partis verts dans l'Europe de l'Est. Pour la droite, la Ligue de Matteo Salvini en Italie a vu du succès, mais en Espagne par exemple ou aux Pays-Bas, ces partis de droite ont été battus. Donc difficile de dire qu'il y a une vague verte ou une vague populiste. La vague verte va peut-être pouvoir peser sur les décisions dans le Parlement, qui n'aura bien sûr pas de majorité avec juste la droite et les socialistes. La vague de populisme semble ne pas avoir lieu pour l'instant, même si ça monte en pouvoir, et comme disait Matteï, certainement dans certains pays de l'Est.
Alors, le Royaume-Uni, parlons-en, on est en plein débat sur le Brexit. Il y a quand même eu des élections,
oui.
Et le Brexit Party de Nigel Farage a eu un tiers des votes quand même.
Oui, donc en plein Brexit, on fait une élection européenne, et cette élection, bien sûr, a été considérée comme peut-être un mini ou un deuxième référendum sur le Brexit. On a vu les pro-Brexit soutenir justement Nigel Farage avec 32%. Mais aussi, on a eu les Liberal Democrats, ils sont pro-européens, ils sont en deuxième place, devançant même les conservateurs de Theresa May, la gauche traditionnelle, the Labour Party. Et ces deux partis n'ont pas eu de programme européen très clair, même les conservateurs en pouvoir, justement, ils ont gagné 7,5%, pas beaucoup, derrière les Verts même, et Theresa May qui a annoncé sa démission quelques jours avant le vote, le parti a même pas vraiment fait campagne. Et le résultat de Labour, c'est le parti de Jeremy Corbyn, en troisième place avec 16,5% de vote, montre que les électeurs n'aiment pas vraiment ce flou de ce parti, comment ils voient Brexit, s'ils veulent quitter ou rester dans l'Europe, voilà. Les résultats de ce vote vont peut-être encourager les conservateurs à prendre une ligne plus forte, plus dure sur le Brexit. On rappelle bien sûr que Theresa May démissionne officiellement le 7 juin. Mm-hmm. Son remplaçant va devoir reprendre Brexit en main d'une façon ou une autre.
Sarah Elsass. Les élections européennes ont suscité beaucoup d'attention des médias chinois. Alors, raison principale, la forte progression des eurosceptiques, on l'a évoqué à l'instant, le sentiment que l'Europe est divisée, quoi, d'une certaine manière. Il est vrai que le total des eurosceptiques en fait la troisième force au Parlement, mais un projet commun de leur part semble difficile. On en parle avec vous, Ninan Wang. Comment la Chine voit-elle cette recomposition politique de l'Europe?
On sait d'abord que la Chine est en plein guerre commerciale avec les États-Unis, donc elle a toutes les raisons de voir que l'Europe reste stable et prévisible. Le journal officiel du parti communiste chinois Global Times a bien noté que les sociaux-démocrates et les conservateurs ont perdu la majorité absolue qu'ils ont eue pendant les derniers 40 ans, mais il souligne que c'est pas tout à fait au profit des extrêmes droites non plus. Les électeurs déçus ont choisi d'autres possibilités, ce qui s'est traduit par un vrai progrès des Verts et des centristes libéraux.
Et comme aucun groupe ne détient la majorité absolue, ça va être difficile de trancher quand il y aura des décisions à prendre.
C'est peut-être ça dont les Européens auront besoin. Comme dit un autre site chinois d'information, Sohu, je cite, une démocratie plus représentée, c'est-à-dire une plus grande division sur l'avenir de l'Europe. Une ancienne conseillère chinoise auprès d'un député européen allemand nous a affiché ses arguments.
Alors, qu'est-ce qu'elle dit?
Elle pense qu'une partie des votes pour les conservateurs et les sociaux-démocrates sont en train de rejoindre les autres partis, car ce que le groupe traditionnel propose aux électeurs ne semble plus pouvoir améliorer leur vie concrètement et ne différencie pas vraiment des politiques précédentes. Les gens auront naturellement envie d'essayer d'autres pistes qui se distinguent des autres. Elle croit que la perte sera de façon continue pour le camp traditionnel.
Alors, le taux de participation, on l'a dit, cette année s'élève à plus de 50%, en France en tout cas, soit une progression de 9 points par rapport aux dernières élections. On dirait bien que les Européens recommencent à s'intéresser à cette Union Européenne. Qu'en disent les médias chinois?
Beaucoup de partis s'autoproclament vainqueurs dans un sens ou dans un autre, et c'est bien noté par la presse chinoise. Mais comme résume l'agence de presse officielle Chine Nouvelle, citant la chaîne de télévision allemande Das Erste, c'est le Parlement Européen le vrai gagnant, car avec un taux de record de participation depuis 25 ans, le peuple s'y intéresse de nouveau.
Accent du monde.
Alors, ces élections européennes, c'est aussi un sujet qui attire le regard des Chinois de France. Ils sont entre 800 000, c'est ça?
Oui.
800 000 et 1 million.
000, oui.
Ah oui, d'accord. Chacun a ses propres raisons pour suivre l'événement de près. Dans les interviews que vous avez recueillies, Ninan, deux sujets se font écho dans cette communiqué. La vigilance contre le racisme et la relation commerciale sino-européenne, c'est ça?
C'est ça. La vigilance d'abord contre le racisme, parce que les extrêmes droites gagnent du terrain en Europe, et la relation commerciale commerciale sino-européenne parce qu'une bonne partie des Chinois en Europe travaillent justement dans ce secteur. Ce sont les deux éléments principaux dans les élections de cette année qui touchent la vie quotidienne des Français d'origine chinoise. On écoute d'abord le responsable du pôle citoyen de l'Association des Chinois résidant en France. Il ne pense pas que la montée des extrêmes droites entraîne forcément plus de discrimination. L'éventuelle cause principale d'après lui, c'est la méconnaissance envers la Chine.
Sur un plan européen, l'ignorance de la Chine laisse apparaître un discours dépeindre la Chine de plus en plus comme une menace. Les populations asiatiques dans leur ensemble en France en subiront les conséquences qu'on connaît déjà, de suspicion, un échec du sentiment de bien-être en France.
Et face à ces stéréotypes, il nous explique comment gérer.
C'est un combat intérieur, c'est à lui, c'est à nous, citoyens français d'origine chinoise ou asiatique, d'agir en tant que citoyens, de distinguer ce qui est de la croyance et ce qui est de la réalité.
Et certains s'inquiètent des relations commerciales sino-européennes, elles pourraient se détériorer.
Tout à fait. Pour cela, voici ce que pense le dirigeant d'une société fournissant des formations de l'adaptation dans l'environnement des affaires sino-français. Lui-même est un Français d'origine chinoise.
Il y a de plus en plus de suspicions à l'égard des investissements chinois. La première raison, c'est simplement que le modèle politique chinois fait peur. C'est un pays dont le fonctionnement est très différent par rapport aux Occidentaux, au niveau de la presse, au niveau des droits de l'homme, etc. Il y a effectivement une certaine différence, donc ça fait peur. Deuxièmement, au niveau du fonctionnement des entreprises chinoises, l'État joue un rôle très important à travers les entreprises étatiques. Et ceci n'est pas vraiment accepté. Ceci crée certaines interrogations.
Mais il reste quand même optimiste sur la volonté de s'entendre entre les Chinois et les Français, car les deux y cherchent des opportunités, des affaires.
Le gouvernement chinois est tout à fait lucide. Les Français, ce qu'on cherche, c'est du business. On est très pragmatique. On va essayer de faire quelque chose pour trouver un compromis. D'autant plus qu'aujourd'hui, les relations entre les États-Unis et la Chine sont mauvaises, et la Chine essaye de rééquilibrer le rôle de chacun. Et la France aura une place beaucoup plus importante à prendre. Beaucoup d'opportunités d'affaires à saisir.
Voilà, un homme d'affaires franco-chinois, Ninan Wang. Merci à vous. Retour en Roumanie avec vous, Matej Wisniewski, donc au lendemain de ces européennes. La justice a envoyé derrière les barreaux le patron du parti au pouvoir, Liviu Dragnea, une confirmation en appel d'une peine de 3 ans et demi de prison, déjà prononcée contre le chef du parti social-démocrate. Vous parlez-vous d'un tremblement de terre politique en Roumanie?
Oui, une grosse surprise, mais attendue quand même. Cette formation est venue au pouvoir il y a 3 ans et depuis, elle a été sans cesse accusée de vouloir affaiblir le système judiciaire afin de blanchir justement son chef, Liviu Dragnea, ainsi que d'autres élus politiques visés par des enquêtes de corruption. Cette réforme, entre guillemets, avait provoqué en 2017, par exemple, les plus importantes manifestations en Roumanie depuis la chute du communisme. Patron de sociaux-démocrates depuis 2015, artisan de leur succès législative de décembre 2016, Liviu Dragnea, personnage controversé, avec pas mal de talent politique, mais avec une vocation un peu totalitaire, avec des dérives, eh bien, il n'a pas pu briguer le poste de Premier ministre en raison d'une autre condamnation pour fraude électorale. Écoutons la réaction d'un sénateur sociodémocrate, Liviu Pop.
Voilà,
ce qu'il dit, c'est que c'est un moment difficile pour le parti, il y aura des luttes internes, mais le parti sortira renforcé de cette épreuve. Voilà.
La Roumanie qui assure en ce moment la présidence tournante de l'Union européenne et qui traverse apparemment une période d'effervescence politique, d'autant plus qu'à la fin de l'année, il y aura des élections présidentielles.
Oui, et l'actuel président pro-européen de centre-droite, Klaus Iohannis, se prépare pour entrer dans la bataille pour briguer un deuxième mandat. Concernant le Parti social-démocrate, je crois qu'il ne peut plus devenir crédible que si les liens avec l'ancien parti communiste sont totalement rompus. Et c'est peut-être le moment de faire cela 3 décennies après la chute du communisme. Le problème, vous savez, dans cette partie de l'Europe, c'est qu'un régime, par exemple, peut tomber dans quelques jours, mais les mentalités, les manières de travailler et les manœuvres des coulisses peuvent rester inchangées pendant encore 30 ans ou plus.
Et puis ce hasard du calendrier, le pape François qui est arrivé ce vendredi à Bucarest pour une visite de 3 jours.
Une visite marquée par l'œcuménisme. Le pape rencontrera, je cite le journal La Croix, la diversité ethnique et culturelle du pays, de la Roumanie. Dans le programme figure aussi un geste hautement symbolique, la béatification dans la ville de Blaj, en Transylvanie, de 7 évêques gréco-catholiques martyrs du communisme entre 1950 et 1970. C'est pourquoi ils ont souffert jusqu'à offrir leur vie est un héritage trop précieux pour être oublié, a souligné le pape dans un message vidéo aux Romains. Voilà, on revient à l'héritage communiste.
Matej Wiśniewski, merci. Et qu'avec vous, Sarah Alsace, on évoque maintenant les restes du dernier navire négrier à avoir ramené des esclaves d'Afrique aux États-Unis. Ils ont été découverts dans un fleuve mobile, ça s'appelle?
Ça s'appelle un mobile.
Dans l'état de l'Alabama cette
voilà,
semaine.
Voilà, cette semaine, c'est le bateau, il s'appelle la Clotilda. Il a fait son dernier voyage en 1860 de la côte du Bénin d'aujourd'hui à l'état de l'Alabama. Il y avait 110 personnes à bord, femmes, hommes et enfants. Une traversée de 45 jours et à la fin, toutes ces personnes ont été vendues. Ceci malgré l'interdiction officielle d'importer des nouveaux esclaves d'Afrique aux États-Unis depuis 1808. Le navire appelé le bateau de l'horreur est devenu légende, bien sûr, dans l'Alabama. Nous avons parlé avec une historienne de la traite des esclaves, Ana Lucia Araujo. Elle dit que les descendants d'esclaves qui habitent toujours à Mobile ont toujours raconté des histoires de Clotilda, de ce bateau, passé de génération en génération. Mais il n'y a jamais eu de preuves.
For very long. People didn't entirely trust those,
donc elle dit pendant longtemps les gens n'ont pas complètement cru ses descendants qui disaient que ce bateau existait. Maintenant il y a l'évidence matérielle qui montre que cela a vraiment eu lieu. C'est de la preuve et aussi historiquement c'est intéressant car il y a très peu de bateaux comme ça qui existent toujours aujourd'hui. À l'époque, comme l'importation d'esclaves était interdite, la Clotilda opérait en secret et a sûrement été coulée exprès pour cacher la preuve du trafic illégal.
Alors ce bateau a fait ce dernier voyage en 1860, c'est plus de 50 ans après l'interdiction de la vente du commerce d'esclaves d'Afrique aux États-Unis. Comment ça se passait?
La vente illégale a continué pendant des décennies. Intéressant pour les trafiqueurs, américains, mais aussi, il se trouve, pour les royaumes africains. La traite d'esclaves a intensifié les guerres entre royaumes en Afrique de l'Ouest qui, selon Ana Lucia Araujo, profitaient de vendre leurs prisonniers de guerre.
This was a trade that was profitable for African.
Elle dit là, ce commerce a été bénéfique pour les chefs africains et une fois dans cette dynamique de participation dans ce trafic d'esclaves, c'était difficile d'arrêter. Les guerres nourrissaient le commerce. Éventuellement, tout ça s'est terminé. Les Européens ont commencé à arriver en Afrique en tant que colonisateurs. Ils ont commencé à mettre en place une transition du commerce vers l'agriculture comme l'huile de palme.
Et pour revenir au bateau, alors qu'est-ce qu'il va devenir, lui?
C'est l'État de l'Alabama qui va décider ou pas de le restaurer. Le bateau actuellement dans le fleuve se trouve juste à 1,5 mètre de la surface, mais bien enfoncé dans la vase, donc il y a du travail à faire. Beaucoup de résidents, y compris les descendants des personnes à bord, voudraient que ce bateau soit exposé dans la ville, en particulier pour en faire un lieu de tourisme, puisque ça amène des gens et c'est un levier économique.
Ça serait un pèlerinage et
ça c'est sûr, et c'est un objet intéressant pour l'histoire américain et africain.
D'accord. Bon, comme c'est la fin d'Action du Monde, on ne va pas en dire plus. On va quand même peut-être se demander, puisqu'il nous reste une petite minute, c'est ça, on va jusqu'à rappeler les heures de diffusion de votre service chinois. Nina, vous avez ça en tête ou pas? Oui.
Ouais.
Alors dites-moi, rapidement.
C'était le vote pendant les élections européennes vu par les Chinois dans l'Europe et aussi par les presses chinoises en Chine.
D'accord.
Oui.
Vous êtes sur Internet, ça?
Nous, on est plutôt sur Internet. Vous pouvez nous trouver rfienglish.com, rfienglish.com. On a plein d'informations en anglais.
En ce qui concerne Matej Wiśniewski, je prends la parole à sa place puisqu'il nous a quittés un petit peu prématurément pour vous dire qu'il y a 12 heures d'émission en roumain qui sont diffusées depuis Bucarest et que les RFI participent une heure par jour du lundi au vendredi. Merci à tous les trois de votre contribution. Nina Wang, Sarah Alsace pour la rédaction anglophone, Nina Wang pour les Chinois et Matej Wiśniewski pour la rédaction en langue roumaine. Merci également à Luna Timbal qui réalise cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Action du Monde, c'est tous les vendredis sur RFI à 18h10 heure de Paris. À la semaine prochaine.